Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Comment soigner l'asthme? On en parle aujourd'hui car en ce moment se déroule à Lille, dans le nord de la France, le 19e congrès de pneumologie de langue française. En France, 4 millions de personnes, dont un tiers d'enfants, sont atteintes par cette maladie chronique qui se caractérise par des difficultés respiratoires, avec des crises récurrentes et dont la gravité varie d'une personne à l'autre. Alors qu'est-ce que réellement une crise d'asthme? Quels facteurs peuvent la déclencher? Comment peut-on la traiter, mais aussi peut-être avoir un traitement de fond pour justement éviter ces crises? On en parle avec le professeur Jean-Marie Kayembe, qui est professeur de pneumologie, doyen de la faculté de médecine de Kinshasa en République démocratique du Congo, le professeur Serge Daumois, qui est chef du service de pneumologie au CHU de Trècheville en Côte d'Ivoire, et il est président de la Société africaine de pneumologie de langue française, et le docteur Bernard Pigérias, qui est pneumologue allergologue à Nice, secrétaire général chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. Si vous avez envie de lui poser des questions, téléphone le 33 1 84 22 75 75. Professeur Jean-Marie Kayembe, professeur Serge Daumois et professeur et docteur Bernard Pigérias, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être là. En fait, vous êtes en direct de Lille, dans les studios de France Bleu Nord, parce qu'évidemment, vous souhaitez assister à ce congrès et vous y participer. Ma première question, docteur Bernard Pigérias, c'est un chiffre en France. Hein, seulement 13% des patients suivent bien leur traitement. C'est vraiment très très peu. C'est impressionnant.
C'est tout à fait impressionnant. Tout à fait impressionnant, Claire, effectivement. C'est un chiffre impressionnant qui concerne malheureusement toutes les pathologies chroniques. Et c'est bien ça qu'il faut voir, comme c'est une pathologie de toute la vie. C'est une pathologie où il faut se soigner en permanence avant un traitement de fond. Malheureusement, l'adhésion des patients au traitement est assez difficile. Et tout se passe là, et tout se passe dans la relation médecin-malade, la relation infirmière, infirmier-malade, et de savoir comment,
bien expliquer la maladie.
Absolument.
Mais là, vous dites que c'est un peu la même chose pour l'ensemble des maladies chroniques. C'est vrai, mais vous allez dire que vous êtes dans la maladie chronique, dans la situation la pire, parce que 13%, c'est quand même un des chiffres les plus bas.
Ah, tout à fait, tout ouais. à fait, tout à fait. Mais le poumon ne fait pas mal. Alors c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte que c'est embêtant. Vous avez un infarctus, une pathologie cardiaque, elle va faire mal. Le poumon ne fait pas mal, donc les gens se soignent moins bien et ne voient que quand ils sont pas bien l'essoufflement, alors qu'il faudrait traiter le fond de la pathologie.
Ça veut dire quoi, docteur Pigérias? On oublie que c'est une maladie dont on peut mourir?
On oublie, effectivement. En France, si on prend les chiffres français, on est à peu près à 800-900 morts par an.
C'est encore
un petit
beaucoup.
Peu baissé, mais c'est encore énorme. C'est encore énorme.
Ouais. Sur une pathologie qu'on peut traiter, professeur Kayembe, j'ai envie de vous poser la même question. En RDC, c'est une maladie dont on meurt?
Effectivement, on en meurt encore un peu plus qu'en France, faute notamment d'un traitement de fond bien suivi, accessibilité difficile, mais également à cause de l'ignorance. L'éducation, le nombre de personnes qui savent ce que c'est que l'asthme, qui savent que ça peut se guérir, les barrières socioculturelles sont autant de phénomènes qui font que l'asthme est sous-traité, sous-diagnostiqué et par conséquent entraîne encore de nombreuses morts, hélas pourtant évitables.
Et professeur Kayembe, c'est aussi l'accessibilité à des spécialistes qui est compliquée.
Effectivement, madame. J'ai bien là le courage de vous dire, dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, quatre pneumologues.
Combien de millions d'habitants, redites-nous?
Pour une mégapole, des plus ou moins, qu'est-ce qu'on nous dit encore là, 10 à 11
oui,
millions
c'est ça,
d'habitants.
Ça n'arrête pas de bouger.
Combien
vous avez dit? Trois pneumologues? Quatre?
Quatre pneumologues et quelques-uns en formation pour le moment. Ça justifie un petit peu ce que nous venons écouter.
Ouais. Professeur
au
de moi.
Concert des notions, ouais. Des nations.
Professeur de moi, c'est la même chose en Côte d'Ivoire?
Oui, et au risque de paraphraser le docteur Pigérias, le professeur Kayembe, je voudrais ajouter que les difficultés de la prise en charge de l'asthme tiennent en plus au refus de la conception du concept de maladie chronique, comme vous l'avez dit, à l'instar de ce qui s'observe pour le diabète et l'asthme. Il y a également une pléthore de pradipraticiens actuellement qui prétendent pouvoir guérit définitivement les asthmatiques de leur asthme. Et il y a également le fait que certaines croyances en Afrique, et plus particulièrement chez nous, considèrent l'asthme comme un sort qui a été jeté à l'asthmatique par une tierce personne. Autant de facteurs qui contribuent à aggraver véritablement la prise en charge de l'asthme qui est méconnue et des patients eux-mêmes et de la plupart des médecins. Et comme à Yaoundé, comme à Kinshasa, le nombre de pneumologues en Côte d'Ivoire est très faible comparativement à la population. Une vingtaine quand même.
Une vingtaine. Tout le pays.
Surtout le pays. Hein.
Si vous le voulez bien, vous allez répondre aux questions des auditeurs qui sont vraiment très très nombreux à appeler. Je pense que c'est assez révélateur de la fréquence de cette maladie. Je vous ai pas demandé d'ailleurs aussi bien sur la Côte d'Ivoire que sur la RDC. Est-ce qu'on a des chiffres de fréquence?
Je dois là sauter directement sur la question. Pas que je vais empêcher mon collègue.
C'est le professeur Kayembe qui parle là. Oui.
C'est le professeur Kayembe qui vous dira que nous n'avons malheureusement pas, il faut avoir le courage de le dire, de véritables études de prévalence. Faute de protocole commun, nous essaierons, et là je parle au président de la Société africaine de pneumologie de langue française, à l'issue de cette réunion où l'on parle asthme au XXIe siècle, nous essaierons de partir d'ici avec un protocole commun à l'Afrique subsaharienne qui nous permettra d'avoir des études comparatives, etc. Nous avons pourtant des petites études consacrées à des tranches d'âge. Il y a notamment la grande étude ISAAC, trois études maintenant, qui ont étudié la prévalence des symptômes de l'asthme chez les 13-14 ans. Mais la prévalence des symptômes, c'est des symptômes parfois auto-déclarés, ce n'est pas forcément la prévalence de la maladie.
On reviendra
concernant, je voudrais dire que très tôt, et des chiffres de prévalence ont été obtenus en Côte d'Ivoire. Hein. Je me souviens qu'en 1985, le docteur Bernard Pigérias, ici présent, avait fait une étude à Abidjan qui avait montré que 8% de la population abidjanaise était asthmatique. À sa suite, le docteur Roudot a boqué en 1992, dans la deuxième ville du pays, montrait que la prévalence de l'asthme à Boaké était de 10%, soit une augmentation de 2% par rapport à Abidjan. Et dans les études récentes qui ont été faites, eh bien, on a estimé que la prévalence de l'asthme est passée de 15% en 1998 à 19% en 2002. Ce qui fait que on peut, à l'heure actuelle, valablement considérer que sur une population de 20 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, 4 millions seraient de véritables asthmatiques dont certains s'ignorent. L'asthme est donc un problème de santé publique chez nous.
On reviendra plus longuement sur le congrès, votre participation, ce que vous y faites. Juste, docteur Pigérès, ces chiffres de fréquence, ça correspond à peu près à ce qu'on trouve en France aussi ou pas?
C'est un petit peu inférieur en France, mais on est autour de 4-5 à 10%, ça dépend des zones. Je crois qu'il faut également, ce qu'on a donné comme chiffres sont des chiffres globaux, mais il est évident que globalement, chez l'enfant jusqu'à l'adolescence, la prévalence est un petit peu supérieure, à peu près de 10-11%, et chez l'adulte va tomber à 5-6%, par exemple.
Alors, je vous l'ai dit, les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Alain qui nous appelle de San Pedro en Côte d'Ivoire. Alain, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Alain.
D'accord, merci beaucoup. Ce que je voulais savoir d'abord, c'est que par rapport à cette maladie, l'asthme, moi, quand je l'avais, il m'était difficile d'abord de savoir si c'était l'asthme que j'avais. Bon, il a fallu d'abord un long moment pour que je le découvre. Alors, ce que je voudrais savoir ici, c'est que quand on a l'asthme, je voudrais savoir quels sont les organes véritablement qui sont exposés, ou les organes qui sont atteints véritablement.
Comment savoir que c'est de l'asthme? C'est votre première question. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer à répondre, professeur Pigérias.
Je vais bien répondre. Effectivement, l'asthme, il faut déjà redéfinir un nom. Et on a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire avec le professeur Doumois, avec le professeur Kofi, son prédécesseur, sur le nom. Quel est le nom donné par les populations à cette pathologie? Et là, au niveau de la Société de pneumologie langue française, la Société africaine de pneumologie langue française, il va falloir qu'on donne les noms locaux, les noms qui peuvent dire et vouloir dire asthme. Asthme en grec, ça veut dire être essoufflé. Mais il nous manque un adjectif, et ça le compte, même en France, on ne met pas l'adjectif, c'est asthme bronchique. Être essoufflé à cause des bronches. C'est les bronches, c'est-à-dire les tuyaux qui irriguent les poumons, qui se ferment, et c'est leur capacité de réouverture avec un bronchodilatateur qui va signer la pathologie. Voilà la
définition. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir une difficulté à respirer? C'est tousser souvent? Quand est-ce qu'on se dit qu'il faut peut-être aller pencher sur un asthme et pas sur simplement une toux?
Effectivement, c'est la difficulté chez le jeune enfant, et c'est ce que disait le professeur Kayembe dans l'étude ISAAC, on avait eu les symptômes, la toux, les sifflements. Après, est-ce qu'un sifflement va céder à un bronchodilatateur? Oui ou non? S'il cède à une adrénaline, bon, le terme, on peut dire presque générique de ventoline, maintenant tout le monde le connaît, ça va être plutôt de l'asthme, c'est évident. Mais la grosse difficulté, c'est que théoriquement, il faudrait faire une exploration fonctionnelle respiratoire pour pouvoir signer la pathologie. Et quand il y a quatre pneumologues pour toute la RDC, ça pose un problème. Professeur Canivet va peut-être suivre.
Oui, mais c'est ce que vous faites, vous, par exemple, avec vos patients en France, docteur Pigeret, c'est ce que vous faites, cette exploration?
Tout à fait.
Professeur Kayembe et Domois, comment vous faites, vous, chacun en RDC, en Côte d'Ivoire?
En RDC, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, le manque de protocoles codifiés et le manque de connaissances sur la pathologie. L'asthme va déjà se manifester comme une respiration difficile, mais on peut avoir une respiration difficile aussi à cause d'une maladie du cœur, à cause d'une maladie infectieuse touchant l'organe essentiel de la respiration que sont les poumons, à cause de l'anémie, à cause d'une atteinte rénale, urémie, etc. Donc il y a plusieurs causes de respiration difficile. Il y a déjà ce problème-là. Mais que faisons-nous dans la pratique courante? Évidemment, nous avons à Kinshasa, par exemple, c'est de Kinshasa que je vais parler, quelques services, et il y en a trois, qui ont la possibilité de réaliser l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui, lorsqu'elle montre la réversibilité de l'obstruction, plaide davantage pour l'asthme. En ayant présent à l'esprit que tout ce qui souffle n'est pas forcément de l'asthme, qui siffle n'est pas forcément de l'asthme. Il y a déjà la bronchite chronique, la BPCO, etc., qui sont des manifestations possibles. Mais nous arrivons au diagnostic d'asthme quand même à cause d'un faisceau d'arguments. D'abord, historique, l'histoire d'un asthme dans la famille, l'histoire chez un enfant, des sifflements récurrents pendant son jeune âge, 3-4 fois avant l'âge de 3-4 ans. Voilà déjà quelques critères qui nous entraînent, qui nous guident vers le fait de penser asthme. Mais la notion d'allergie ou de manifestation allergique ne concerne pas uniquement les voies respiratoires inférieures. Elle peut concerner le nez, où l'on a la rhinite allergique, souvent confondue en médecine générale chez nous avec la sinusite, qui est plutôt d'origine infectieuse et surtout virale. Donc, l'allergie peut être cutanée dans une famille, l'urticaire, etc. Et le fait de ne pas supporter certaines odeurs fortes, la poussière, et en Afrique en particulier, l'huile de palme qui boue, etc., c'est des notions qui signent une certaine inflammation exagérée. En médecine, nous l'appelons hyperréactivité bronchique, caractéristique de l'asthme.
Et il faut consulter, parce que je comprends bien, vu que c'est pas très simple, c'est que c'est que le médecin qui peut diagnostiquer ce genre de choses. J'ai, je crois, une deuxième question, Alain, à poser.
Mais avant, je pense que j'aurais pu dire quelque chose en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, pour répondre à la question d'Alain, et l'organe atteint dans l'asthme, ce sont les bronches. Ce sont les bronches qui ont une sensibilité exagérée vis-à-vis de certains facteurs qui sont contenus dans l'environnement des patients. Et c'est vrai que si le diagnostic de l'asthme est difficile chez les enfants, chez les adultes, il est encore plus aisé, surtout lorsque la crise est typique. C'est une crise qui survient habituellement au cours de la première moitié de la nuit et qui se manifeste par un épisode de suffocation et qui inquiète les malades qui, pour la plupart du temps, se rendent aux urgences, parce que c'est un problème de souffle. En dehors d'une crise typique, effectivement, on aura besoin de confirmer la réversibilité du syndrome obstructif par les explorations fonctionnelles respiratoires. Et comme l'a dit le professeur Kanyemé, c'est un examen qui ne se réalise pas partout. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne peut faire les examens et les explorations fonctionnelles respiratoires que seulement à Abidjan. Ça suppose que pour l'établissement de l'asthme, il y a plusieurs facteurs qu'il va falloir prendre en compte. Il y a l'histoire du malade lui-même, la recherche d'un terrain allergique et surtout les manifestations cliniques de la maladie. Lorsqu'elles sont typiques, on n'a pas besoin de faire des explorations fonctionnelles respiratoires. C'est lorsque les symptômes sont frustes qu'on est obligé d'étayer les diagnostics par les EFR qui vont permettre de confirmer cette obstruction bronchique qui est réversible sous traitement. Voilà.
Alain, vous aviez, je crois, une deuxième question à poser.
Oui, merci beaucoup. En fait, attends, le docteur, je me retrouve exactement dans ce qu'il dit. Exactement.
Oui, vous retrouvez dans ce que viennent de dire les médecins.
Hein. exactement. Moi, je peux dire que on n'a pas eu du temps d'abord pour savoir que j'avais l'asthme. Alors, ce que j'aimerais savoir à ce niveau, est-ce que les allergies sont... Est-ce que quelqu'un qui fait une allergie ouais, d'une personne à une autre ou bien... toutes les personnes exposées à l'asthme ont les mêmes allergies. Parce que moi, par exemple, quand je mange le coco sec, j'ai un écoulement nasal. Et ça peut prendre des heures, souvent des jours. L'arachide, par exemple, je n'en consomme pas. La poussière, l'odeur de la cigarette, bon, voilà autant d'allergies que j'ai. Alors, pour savoir toutes les personnes qui ont l'asthme.
Est-ce que sont allergiques aux mêmes choses? Et je crois que vous aviez encore juste une dernière question. Est-ce que vous prenez un traitement de fond ou simplement un traitement pour les crises?
C'est seulement pour les crises. Hein. Je prends la Ventoline, comme la personne l'a dit.
Juste quand vous avez des crises. Et vous avez des crises, vous en avez combien par mois?
Bon, vraiment, ça dépend. La dernière fois que j'ai eu la crise, c'était en août. 2014.
Donc c'est pas des crises très très fréquentes. Alors plusieurs questions. D'abord la question, est-ce qu'on est allergique aux mêmes choses? Pas forcément, c'est ça?
Alors ça, je vais peut-être répondre un petit peu en tant qu'allergologue
et ayant
sur les deux continents où j'ai fait beaucoup de recherches également en allergologie à Abidjan. Je crois qu'il faut vraiment faire attention au terme d'allergie. On ne dit pas j'ai une allergie, non, j'ai une rhinite allergique, j'ai un asthme allergique. Ce qui veut dire que dans les causes de l'asthme, en général, il y a un trépied, il y a l'infection, et en Afrique noire, c'est extrêmement fréquent, comme facteur déclenchant. Il y a la bronchoréactivité qui serait liée effectivement à un facteur allergique, on va le détailler un tout petit peu plus, et après il y a le côté neurovégétatif, le côté neuropsychologique qui est au moins aussi important que les deux autres. Ça, c'est fondamental. On a bien vu combien la représentation culturelle de la maladie dans cette perte de souffle est fondamentale. Pour en finir avec allergie ou y revenir plus tôt, revenons au terme allosergein, ça veut dire réagir autrement en grec. C'est quelqu'un qui surréagit à quelque chose qui lui est étranger. Or tout ce qui n'est pas moi m'est étranger, c'est toute la problématique. Et donc, tout le monde ne fera pas des réponses allergiques à tout, et pas à la même chose, et ce n'est pas toujours la cause fondamentale de l'asthme. Donc, pour faire court, la grosse cavalerie, si je peux dire, de ces problèmes dans des pays très chauds et très humides, ce sont les acariens. Je crois que mes deux collègues peuvent...
Tout à fait d'accord.
Les acariens. C'est-à-dire qu'on trouve quoi, dans la poussière?
Dans la poussière, oui. Ouais. Acarie en grec, là aussi, la sémantique revient en plein fouet. Ça veut dire un tout petit insecte. Et c'est un petit insecte qui est très allergisant. Et on avait pu décrire en Côte d'Ivoire jusqu'à 22 000 acariens par centimètre cube de poussière dans un oreiller d'asthmatique. Donc vous imaginez.
L'horreur.
Et ensuite, alors pour les allergies qui ont été décrites, je crois qu'il faut toujours dire, je n'ai pas une allergie, j'ai une rhinite, j'ai une conjonctivite, j'ai quelque chose d'allergique. C'est une des causes, c'est pas une maladie. Et à ce moment-là, ce qui a été décrit, je crois qu'il faut bien que notre interlocuteur Alain comprenne bien, on n'est pas allergique à l'huile de palme qu'on respire, on n'est pas allergique au fuel, au diesel qu'on respire, c'est de l'hyperréactivité qui est là. Par contre, alors ça devient plus compliqué, il peut y avoir des réactions croisées avec des aliments, comme l'arachide ou autre, qui peuvent déclencher et des crises anaphylactiques, c'est-à-dire une suffocation extrême et donc des crises d'asthme. Mais ça, on est quand même en dehors de la grande pathologie générale.
Et la Ventoline, donc en cas de crise que prend Alain, et quand on fait pas, il n'a pas des crises très fréquentes apparemment.
Non, apparemment, ouais, c'est bien, mais je pense qu'il faut se souvenir que c'est une maladie, et vous l'avez dit Claire au tout début, inflammatoire des bronches, et c'est ce terme d'inflammation, la Ventoline en question n'a jamais soigné l'inflammation.
Tout à fait.
Donc,
Elle soigne la crise.
C'est-à-dire le bronchospasme, c'est une fermeture des bronches, c'est un spasme des muscles bronchiques qui va être réouvert, ce spasme, relâché par la Ventoline, qui est une adrénaline, tout simplement. Hein.
Merci beaucoup Alain, et on a Samsou qui nous appelle de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Samsou, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voulais savoir comme vous avez dit là, quand je suis en ville, mon âme me fatigue beaucoup. Quand je suis en village, vraiment, je suis en calme.
C'est ça, parce que en fait, vous vivez, qu'est-ce que je comprends, vous vivez au Congo-Brazzaville, mais vous êtes originaire du Sénégal, c'est ça?
Et... Oui, je suis au Congo-Brazzaville, donc ça fait un an déjà. Ouais.
Et quand vous rentrez au Sénégal, vous n'avez pas de crise?
J'ai pas de crise, non. J'étais encore à Brazzaville, encore, c'était comme ça.
Alors,
Quand je rentre chez moi...
Vous restez en ligne, si vous le voulez bien, Samsou, parce qu'en fait, les informations approchent. Donc, les médecins vont vous répondre dans 3 minutes, juste après les informations. Donc, on essaye de voir aujourd'hui comment soigner, comment traiter l'asthme. Un téléphone, si vous avez envie de participer, le 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'asthme à l'occasion du 19e congrès de pneumologie de langue française qui se déroule en ce moment à Lille, dans le nord de la France. Trois invités pour en parler. Le professeur Jean-Marie Kayembe, qui est professeur de pneumologie, doyen de la faculté de médecine de Kinshasa en RDC. Le professeur Serge Domoua, qui est chef de service de pneumologie au CHU de Trècheville en Côte d'Ivoire et président de la Société africaine de pneumologie de langue française. Et le docteur Bernard Pigérias, pneumologue allergologue à Nice. Il est secrétaire général chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française et un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Juste avant les informations, on est en ligne avec Samsou qui nous appelle de Pointe-Noire à Brazzaville et il nous signalait que quand il est au Congo, justement, il a des crises d'asthme, mais quand il rentre dans son village au Sénégal, il peut passer 6 mois sans prendre de médicaments. Pourquoi expliquer cette différence? Qu'est-ce qu'il veut répondre?
Ben, je dirais à notre ami Samsou, qui est juste en face du...
Professeur Kayembe, hein, c'est bien ça.
Oui, bien sûr. À vol d'oiseau du Congo-Kinshasa.
Pas très loin.
Que l'environnement est déjà un petit peu différent selon que l'on est à Kinshasa ou à Lille où nous nous trouvons en ce moment. Il y a déjà les conditions climatiques qui sont différentes, qui feront croître certaines bestioles. Le docteur Pigérias Bernard a parlé tout à l'heure des acariens. Il y a déjà ces conditions d'environnement un petit peu différentes. Il y a déjà, il a parlé de la stimulation neurovégétative. Le stress peut être différent pour notre ami qui, au Congo-Brazzaville, est probablement sur son lieu de travail et plutôt en vacances. Au Sénégal, dans sa terre natale, il y a déjà ce changement d'environnement qui l'expose de manière différente aux allergènes, nous en avons parlé, qui peuvent provoquer l'inflammation et la crise d'asthme. Donc il y a déjà à considérer que cette différence peut expliquer le conditionnement différent chez notre ami qui a posé la question.
Merci. On a Amandine qui nous appelle de Douala au Cameroun. Amandine, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Amandine. Parlez bien fort près du téléphone.
D'accord. Moi, j'aimerais savoir, lors d'une crise d'asthme, en absence de ventoline, on a combien de temps pour pouvoir trouver la mort? Parce qu'on m'a fait comprendre que l'asthme tuait.
Et alors, vous êtes vous-même asthmatique, hein, c'est bien ça?
Justement.
Oui. Et vous avez toujours de la ventoline sur vous ou justement, de temps en temps, vous n'en avez pas?
Toujours, mais par moments... Je me rends compte que ça finit au cours, pendant que je suis en train de m'administrer la ventoline.
Oui. Et est-ce que vous prenez un traitement de fond?
Non.
Donc vous traitez que les crises?
On m'a fait comprendre.
Qu'est-ce qu'on vous a fait comprendre?
On m'a fait comprendre que je devais prendre un traitement traditionnel dans la base des plantes.
Ah, alors là, vous allez avoir plusieurs médecins qui vont réagir à ça et qui vont vous dire que c'est pas forcément ce qu'il faut. Mais est-ce que vous êtes allé voir un médecin ou un pneumologue pour votre asthme? Ou jamais?
Justement, si.
Et il vous a pas donné, un traitement de fond?
Non, pas du tout.
Ah.
Alors, ce que je voudrais dire, est déterminer le délai de décès à partir du moment où on fait une crise d'asthme qu'on n'a pas et sa ventoline, je pense que c'est ça relève du miracle. Ce qui est sûr, un asthmatique en crise, il est obligé de prendre des médicaments qu'on appelle des bronchodilatateurs. C'est bien le rôle de la ventoline de dilater les bronches. Mais par la suite, il y a tout un bilan à faire pour voir le degré d'évolutivité de la maladie asthmatique elle-même. À partir d'un certain nombre de bilans qui sera effectué, on saura soit si c'est un patient qui a des crises d'asthme intermittentes, auquel cas le traitement sera basé sur l'administration de bronchodilatateurs. Si on remarque également à la suite de l'examen dans les explorations fonctionnelles respiratoires qui montrent qu'il y a un fond inflammatoire persistant, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve au niveau de l'asthme persistant, que ce soit léger ou sévère, en ce moment-là, un traitement de fond s'impose. Le drame, c'est que quand un patient a besoin de traitement de fond qui ne le prend pas, en ce moment, il y aura une succession de crises de plus en plus graves qui vont malheureusement amener au décès du patient. Donc, l'asthme tue lorsque un patient qui nécessite un traitement de fond ne prend pas correctement son traitement de fond.
Moi, professeur Demois, pour vous, si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'en tout cas, il faut réagir très vite. Hein,
très vite,
ça, voilà. Et simplement, professeur Demois, mais quand le médecin ne prescrit pas le traitement de fond, et ça, ça ne se passe pas simplement en Afrique, on voit aussi cette situation en France, ça arrive que c'est pas le bon traitement qui soit donné, non? Je me trompe en
mais
disant
tout à
ça
fait. La prescription du traitement de fond est sous-tendue d'abord par le bilan d'évolutivité de la maladie. Il faut faire la preuve que l'asthme est en train d'évoluer à bas bruit parce que il y a un fond inflammatoire qui est en train de se pérenniser. Donc c'est ce bilan-là qui va permettre de dire qu'il y a un asthme léger persistant, un asthme modéré ou un asthme sévère. Et tous les asthmes qui sont persistants nécessitent un traitement de fond. Ça suppose, encore une fois, qu'il faille faire des explorations fonctionnelles respiratoires pour préciser le degré d'inflammation bronchique persistante.
Et vous n'avez pas réagi. Oui, c'est ça. On peut pas.
On peut pas.
Et vous n'avez pas réagi à la question d'aller voir les tradis praticiens. Je vous ai quand même entendu un peu sourire.
Les tradis praticiens, je pense que mieux vaut s'en écarter. Ah. Parce que l'asthme est un état. On a vu, c'est quelqu'un qui a une particularité. Il réagit de façon exagérée par ses bronches à des facteurs qui sont contenus dans son environnement. Et donc, l'asthmatique, il naît, il vit et il meurt asthmatique. Le vrai problème, c'est d'éviter que l'asthmatique meure des complications de son asthme, parce qu'en ce moment-là, on l'aura pas bien pris en charge. C'est ça le problème. Dire que on guérit définitivement les asthmatiques de leur asthme, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible.
Et Amandine, bon, je crois que vous voulez rajouter quelque chose, professeur
Kayombé. Absolument. D'abord, quand elle demande, cette jeune Camerounaise, quand est-ce qu'on meurt de son asthme en étant en crise, etc. Une des définitions fonctionnelles de l'asthme, c'est de dire que c'est une obstruction qui peut céder. Spontanément d'ailleurs, parfois sans médicaments, ou qui peut l'être sous l'action d'un bronchodilatateur. Donc voilà déjà la difficulté qu'a le médecin, qui ne peut pas dire au bout de 2-3 minutes d'obstruction, c'est la mort. Ensuite, c'est une maladie chronique. L'inflammation est le soubassement essentiel de la maladie asthmatique, raison pour laquelle, mon collègue Serge l'a dit tout à l'heure, il faut absolument un traitement de fond chez la plupart d'asthmatiques, quoi qu'il en soit. Nous avons déjà dit la difficulté en Afrique d'avoir des moyens de contrôle, des moyens d'examen, l'exploration fonctionnelle respiratoire. Nous faisons donc habituellement appel, pas au flair simplement, mais à la connaissance du médecin qui peut déjà voir le nombre de crises que fait un patient, qui va lui conseiller des mesures de prévention pour empêcher la crise. Le traitement de fond est en lui-même également un traitement préventif qui va permettre d'assurer le contrôle. Je m'arrêterai là pour ne pas monopoliser la parole, un petit peu nuancé vis-à-vis de la médecine traditionnelle. Franchement, le continent est truffé de charlatans à l'heure actuelle, de vendeurs d'espoir et de bonheur qui eux-mêmes ne connaissent pas le principe essentiel contenu dans leurs médicaments. Mais dans la pharmacopée traditionnelle, il y a certainement des principes anti-inflammatoires, etc., qu'il appartient à nos pays de rechercher éventuellement des plantes, etc., qui pourraient être dotées de véritables propriétés anti-inflammatoires. Vous avez abordé, et vous l'aborderez certainement, la recherche dans le domaine de l'asthme.
Et il faudrait faire un peu de ménage. Amandine, je crois que vous avez une autre question à poser, parce que vous avez une petite fille qui a 20 mois et qui apparemment a des petits problèmes respiratoires.
Oui, justement. Bon, j'aimerais savoir si l'asthme est héréditaire.
Question très importante de Dr Pigérias.
Tout à fait, il y a une part héréditaire, c'est clair. Les candidats aux gènes héréditaires, on les connaît un petit peu, pas tous bien évidemment, mais à l'évidence, il y a une certaine génétique dans l'asthme. Et c'est pour ça que pour la petite Amandine, il faut prendre très au sérieux les sifflements, très au sérieux les infections respiratoires hautes de la petite enfance. Et la meilleure prévention d'une meilleure respiration et d'éviter l'évolution vers un asthme difficile pendant sa vie d'adulte, c'est de traiter toute la petite enfance comme il faut. Je crois que mes collègues seront d'accord là-dessus.
Oui, absolument. C'est ça. Et d'aller consulter vraiment le conseil, Amandine, si on peut vous donner un conseil, là, c'est d'ailleurs de reconsulter pour vous, mais de consulter aussi pour votre fille. C'est important. Merci de nous avoir appelés.
Vous me permettrez un dernier conseil, parce que c'est un conseil vécu pendant des années, 11 ans en Côte d'Ivoire et 25 ans en France. Traitez le nez. Le nez. Absolument. Il faut avoir, le poumon commence au bout du nez, et si vous n'avez pas un nez propre, vous n'avez pas de filtre pour le poumon. Et ça, c'est fondamental. Et un dernier petit conseil pour l'Afrique, que j'ai vécu là aussi, c'est le problème de l'air conditionné, et le problème de ce que j'appellerais, en plaisantant sur le ton de la boutade, du syndrome pied froid, nez bouché. Ce qui veut dire en clair que quand vous êtes dans une chambre climatisée, en air conditionné un peu trop frais, que vous vous levez, vous mettez les pieds sur le carrelage très froid, aussitôt vous avez une obstruction nasale. Ça, il faut l'éviter, donc, il faut faire descendre le niveau d'air conditionné pour les gens qui en ont, pour arriver à l'air normal, c'est-à-dire au moment où on se lève, dans l'heure qui précède la nuit, le lever.
J'aime bien vos petits conseils, docteur Pigéria, je le retiendrai. Le coup des pieds froids sur le carrelage, c'est une bonne idée.
Je vous rappelle que en matière
c'est super, je suis très sérieuse quand je vous dis ça, j'aime bien, ces conseils pratiques.
Tout à fait, l'autre conseil qui va avec, c'est là c'est le somnologue, l'hypnologue, le spécialiste sommeil qui parle, où vous ne pouvez pas vous endormir, ça va avec là, vous ne pouvez pas vous endormir avec le nez bouché, mais vous pouvez vous endormir avec les pieds froids.
Ah oui, aussi, autre problème.
Alors on en parlera, c'est un autre débat.
C'est un débat intéressant, que les femmes connaissent bien les pieds
froids. Tout à fait. C'est un problème de mélatonine, ça, on en reparlera.
On a Mahamat qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Mahamat, bonjour.
Oui, bonjour, Claire.
On vous écoute, Mahamat, parlez bien fort, hein, parce que les lignes téléphoniques ne sont pas très bonnes.
Oui, Claire, moi, je sais pas, j'ai ma soupe depuis mon enfance. Et comme les autres qui l'ont dit tout à l'heure, chez moi, quelquefois, la nuit, quand je dors, dans le 4e,
alors, je suis Mahamat, vraiment, la ligne téléphonique est très très mauvaise, donc je vais me permettre de lire votre question. Vous souffrez d'asthme depuis votre enfance, c'est pas quotidien, mais vous faites quand même 3 à 4 crises par mois. En général, vous êtes justement dans un environnement poussiéreux, avec de la fumée, et quand vous avez, c'est à ce moment-là que vous avez des problèmes de respiration. Ça dure 10 à 15 minutes, puis ça disparaît. Vous suivez pas le traitement tous les jours, mais quand c'est trop fort, vous allez à la pharmacie et vous prenez un traitement de salbutamol, je sais pas si je prononce bien. Quand
c'est
vous
la ventoline.
C'est la ventoline, d'accord. Merci. Mais je suis pas médecin, hein. Il reste quand même encore des failles. Donc ça, c'est pas le traitement de fond. Ça, j'ai bien compris, la ventoline.
Non, sûrement pas.
Et alors, quand on a 3-4 crises par mois, ça voudrait dire justement que là, il faut un traitement de fond?
Absolument.
Probablement que la réaction inflammatoire est en train de se pérenniser. Et je sais que à N'Djamena, nous avons deux pneumologues là-bas, le docteur Jimé et le docteur Ngakoutou Rangwa, qui sont des pneumologues. Donc je pense que c'est l'occasion donnée à monsieur Mahamat de vraiment rendre visite à ces pneumologues là pour pouvoir éventuellement instituer un traitement de fond, parce que là probablement, l'inflammation est en train de prendre le dessus de la maladie.
Juste, professeur Domoa ou professeur Kayembe, je suis absolument impressionnée. Là, on a des dizaines de questions qui nous arrivent. Et ce que je vois et de ce que j'en comprends, il n'y en a aucun qui est sous traitement de fond. Tout le monde prend de la ventoline, mais pas de traitement de fond. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir certains de vos patients qui ont le traitement de fond? Et est-ce qu'on peut un peu plus détailler ce traitement de fond? C'est quoi et à quoi ça sert?
Oui, nous devons déjà reconnaître que nous avons quelques patients sous traitement de fond. Et ce traitement de fond consiste essentiellement en l'utilisation des anti-inflammatoires. Et les anti-inflammatoires les plus puissants demeurent les corticoïdes. Sauf que ces corticoïdes, on évitera le plus possible de les administrer par la voie systémique. J'entends par systémique les corticoïdes pris par la bouche ou par la voie d'injection intraveineuse ou intramusculaire. C'est des corticoïdes à action locale sous forme d'aérosol comme la ventoline que l'on prend pour dilater la bronche. Nous garderons éventuellement, pour des raisons d'éthique professionnelle, de citer une marque ou une autre des corticoïdes inhalés, encore qu'ils nous attendent déjà les délégués de firme tout à l'heure à la conférence. Mais sachez qu'il existe des médicaments qui sont des corticoïdes administrés sous forme d'aérosol pour une action locale. Évidemment, nous avons parlé en début d'émission de l'accessibilité aux médicaments. Je voudrais dire qu'une des meilleures approches thérapeutiques aujourd'hui du traitement de fond associe les médicaments qui dilatent, comme la ventoline, mais à action en retard, et des corticoïdes. Chez moi, au Congo, un mois de traitement de cette nature-là coûte au bas mot $35. Et je ne voudrais pas dire que $35 peut représenter la moitié, voire le tiers d'un salaire d'un individu moyen.
Inabordable.
C'est vous dire que c'est tout simplement inabordable.
Et du coup, c'est pourquoi les patients du coup prennent que le traitement de crise.
Une des raisons, à côté de le manque d'informations sur la nature de la maladie et les moyens les meilleurs de la contrôler.
Docteur Pigérias, on a donné en début d'émission les chiffres du pourcentage de patients en France qui suivent vraiment leur traitement, 13%. Il n'y a pas le même obstacle financier, nous c'est pris en charge par la Sécu. Pourquoi les patients ne prennent pas ce traitement de fond? Il y a des effets secondaires, c'est la peur de quoi?
Non, c'est vrai qu'il y a la corticophobie, mais le professeur Kahnemi a bien dit que cette corticophobie, en fait, elle concerne essentiellement les comprimés et les piqûres. Donc c'est moins grave. Mais seulement.
C'est quoi? C'est la peur de grossir, ça, quand c'est sous forme de
comprimés? De grossir, voilà. Oui. De grossir ou d'avoir des aigreurs d'estomac, etc. Alors, ceci dit, il est vrai qu'après, par rapport au traitement local, puisque c'est le traitement local avec des stéroïdes, enfin, des corticoïdes inhalés associés au bêta-du-mimétique, donc le salbutamol que vous avez cité tout à l'heure, qui sont les traitements de fond, cela peut poser quelques petits problèmes au niveau de la bouche, mais il y a des éléments simples, on se rince la bouche avant et après, vous aimez mes trucs.
C'est quoi la bouche sèche du coup?
Voilà, c'est-à-dire qu'après il se crée des mycoses, des champignons de la bouche. Alors dans mes trucs, je mets dans mon ordonnance, c'est systématiquement écrit, à prendre avant le brossage des dents. Comme ça je suis sûr qu'il ne reste rien dans la bouche. C'est un truc très simple à prescrire, c'est systématique sur mes ordonnances, avant le brossage des dents. Je voulais rebondir sur un autre élément par rapport à la prise en charge. Moi, dans ma pratique, je n'ai qu'une seule question pour l'asthme, et ça vous allez voir la distance. C'est est-ce que vous avez fait une seule crise d'asthme dans le dernier mois, dans le dernier mois écoulé. Pour moi, quelqu'un qui a fait une seule crise d'asthme dans le dernier mois écoulé, je lui impose un traitement de fond. Ben oui. Alors après, à nous de trouver des solutions pour être très très démonstratif par rapport à la conviction qu'il faut qu'on ait pour qu'ils prennent ce traitement.
Et alors justement, est-ce que vous obtenez, vous, avec vos patients, de meilleurs résultats que ce 13%? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à mieux convaincre vos patients?
C'est fondamental que les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. 13%, c'est la population générale. Mais si je prends les chiffres d'une population soignée, suivie directement par les pneumologues, on n'est pas à 13%, on doit être à 80%.
Ah oui, donc vous arrivez à les convaincre.
Oui, non.
Donc truc, c'est d'arriver à atteindre la porte du pneumologue. Je voudrais qu'on parle un peu recherche, parce que vous allez, et ce que vous allez aborder justement pendant ce congrès, vous allez, j'imagine bien, aborder cette question du suivi des traitements, parce que c'est absolument essentiel. Et sur les questions de recherche, est-ce qu'on trouve des médicaments maintenant encore plus efficaces avec moins de, je sais pas.
Oui, tout à fait. Alors, je vous dirais, si je vais répondre, peut-être donc après l'association, il y a deux volets. Dans cette question, il y a le volet pour l'accessibilité aux soins et la recherche pour avoir des produits de bonne qualité à des prix pas trop chers. Et ça, c'est fondamental. C'est des actions qui sont faites avec l'OMS et c'est ce qu'on appelle les PAL. Vous allez en parler après, plus que mieux que moi. C'est-à-dire des programmes d'accès à tout ce qui est pathologie pulmonaire globalement. Et là, ça marche mieux dans une prise en charge globale pulmonaire de type OMS. Ça, ils font qu'on les deux professeurs pourront en parler. Pour ce qui est de la France et pour ce qui est de l'Europe, il y a des énormes recherches pour ces fameux 5 à 6% d'asthmatiques extrêmement durs et qui meurent.
C'est ça, pour lequel les traitements sont pas très efficaces en fait, c'est ça.
Ils sont pas, oui voilà. Alors là on cherche mais c'est des zones, ce qu'on avait appelé, j'aime pas le terme, mais enfin on appelle ça la médecine personnalisée. Ça voudrait dire que les autres sont pas personnalisés, ce qui est faux. C'est une médecine de la personne, mais quand on dit personnalisé à ce sens-là, c'est que on va essayer de cibler, comme dans certains cancers, des molécules très précises qui ne seraient adaptées que pour telle type de patient, mais ultra ciblé. Mais là, on est dans des coûts. Tout à l'heure, c'est un vrai séminaire. Ça peut aller 1000 euros, 2000 euros par mois. Donc, voilà. Mais c'est des recherches fondamentales parce qu'on va sauver des vies. Et en même temps, une fois que ces recherches sont faites, elles peuvent se décliner et obtenir des médications moins chères. Tout à l'heure, on a parlé de l'inflammation. C'est surtout, effectivement, sur les problèmes de l'inflammation que l'on décline la recherche. Dans tous les mécanismes inflammatoires, peu importe les petits prénoms, ce sont des interleukines, etc. Et il y a des sous-classes sur lesquelles on va trouver des anti-interleukines qui permettront de mieux cibler les thérapeutiques. Et encore, faudra-t-il trouver la personne et la bonne personne.
Et alors, sur l'Afrique, professeur Kayembe et professeur Domois, vous allez parler de quoi pendant ce congrès?
Nous allons surtout écouter et échanger avec nos collègues du Nord. On les appelle du Nord, nous sommes du Sud. Parce que, déjà, nous avons également des cas d'asthme appelé asthme difficile. Asthme difficile, la question que se pose le pneumologue, est-ce d'abord un asthme? Et l'asthme en lui-même est généralement associé à des comorbidités, comme le reflux gastro-œsophagien, comme l'obésité, comme les troubles du sommeil, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. L'asthme chez une personne obèse ne se traitera pas, n'aura pas les mêmes résultats que chez une personne qui n'est pas obèse. Donc prendre en charge l'asthme, c'est prendre en charge déjà les comorbidités qui existent, mais c'est également prendre en charge ou livrer aux patients les meilleurs moyens de contrôle. Et ces moyens n'étant pas que pharmacologiques. Dans mon pays, un des graves problèmes d'échec du traitement de l'asthme, c'est déjà, et il réside dans comment le patient lui-même prend ses médicaments. C'est ahurissant. Lorsque vous demandez à une maman, une âgée de 60, 75 ans, de vous montrer comment elle peut, lorsqu'il y a accès, comment elle prend sa Ventoline, le médecin est ahuri. Ahuri de voir qu'elle libère dans la nature, plus qu'elle n'avale, 80% de son produit.
Mais si on lui a pas bien expliqué comment faire...
Effectivement. Hein, nous insistons
n'accusons
donc,
pas les patients, c'est les médecins qui expliquent pas bien.
Pas du tout. Nous insistons en enseignant, en montrant aux malades, et nous insistons, chez nous en Afrique en particulier, je suis sûr que Serge fait de même, les jeunes étudiants, les internes, etc., et les patients eux-mêmes, asthmatiques en tout cas, nous prenons le temps de leur montrer comment prendre correctement les médicaments. Et il y en a qui vous disent, voilà 30 ans comme Molière, voilà 30 ans que j'ai fait de la prose, sans le savoir. Ils ont pris le salbutamol pendant 30 ans, mais jamais correctement.
Jamais comme il faut.
Et parfois, on est surpris de voir les résultats.
Professeur Demoy, qu'est-ce que vous voulez rajouter?
Alors, ben, pourquoi est-ce que nous participons au congrès de la Société de pneumologie de langue française? C'est pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est de présenter les résultats de recherches scientifiques que nous réalisons sous nos tropiques. La deuxième raison, c'est que nous venons, à travers ces congrès, partager notre expérience avec nos pneumologues, nos confrères pneumologues d'Afrique et d'ailleurs. Et c'est aussi, comme l'a dit le professeur Kayembe tout à l'heure, l'occasion pour nous d'entreprendre des travaux de recherche en commun sur des pathologies qui constituent pour nous une priorité. Et la dernière raison pour laquelle nous venons au congrès, c'est justement que nous venons négocier la possibilité d'accord d'échange de praticiens entre les praticiens du Nord et ceux du Sud. Et nous profitons de cette occasion pour mettre en pratique nos connaissances parce que au cours de ce congrès, il y a des formations pratiques ciblées sur des pathologies qui nous intéressent le plus. Donc voici autant de raisons qui justifient notre présence ici. Je voudrais profiter de l'occasion justement pour remercier le docteur Pigérias qui est responsable des relations extérieures, qui a permis à la Société africaine de pneumologie de langue française de bénéficier de bourses pour plus d'une quarantaine de jeunes médecins qui sont actuellement au congrès. Et je pense que c'est ça.
C'est important. Et de ce que j'entends, le docteur Pigérias, il est un peu africain apparemment. Hein.
Oui, c'est un pionnier.
C'est un pionnier. Ambassadeur de l'Afrique.
C'est un pionnier, un ambassadeur.
Du Congo, du Ghana, du Cameroun.
Une courroie de transmission.
J'ai bien compris.
La Société de pneumologie de langue française et la Société africaine de pneumologie.
J'ai bien vu qu'il connaissait bien le continent apparemment. On va prendre juste une dernière question très rapide. Il y a Medoun qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Medoun, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour. Je suis asthmatique depuis ma naissance. J'utilise la Ventoline comme traitement de fond. On me l'a prescrit comme traitement de fond. Dans la posologie, c'est deux inhalations le matin et le soir au coucher. Ma question était de savoir si l'utilisation prolongée de la Ventoline peut avoir des conséquences sur le foie, comme je l'ai entendu ce soir.
Alors, professeur Demoy, vous répondez à votre compatriote ivoirien.
Mais je réponds d'emblée pour dire que la Ventoline, ce n'est pas le traitement de fond de l'asthme. La Ventoline est un bronchodilatateur. C'est un médicament qui va servir à dilater les bronches pendant la crise. Au-delà de la crise, si Medoum présente des accès répétés d'asthme, c'est probablement parce qu'il est en train de pérenniser l'inflammation au niveau de ses bronches. Il y a nécessité pour lui de consulter un spécialiste pour pouvoir envisager la possibilité d'utilisation d'un traitement de fond.
On est, excusez-moi d'être aussi direct là, typique dans ce que, et je suis très content que ce soit vous qui répondiez comme ça, c'est apparemment on lui a pas prescrit ce qu'il fallait comme il fallait.
Non, c'est pas le traitement de fond est basé sur des corticoïdes inhalés.
Et ça c'est le médecin qui lui a dit ça.
Mais c'est le médecin qui nécessite d'être récité.
Il faut aussi
qu'il voit le spécialiste.
Je voudrais bien dire à Medoun qu'il risque de me poussé à aller à la Cour pénale internationale. Je suis en Europe et porté plainte contre mon collègue Serge en face de moi. Parce que ce n'est pas lui qui certainement lui a prescrit la ventoline comme traitement de fond. Et qui n'a pas d'effet nocif sur le foie.
Ça n'a pas d'effet nocif sur le foie, quand même, pour répondre à sa question. Mais ce n'est pas un traitement de fond, il faut aller consulter vraiment un pneumologue.
Il peut y avoir une tachyphylaxie. Donc, une sorte d'accoutumance à ce médicament qui n'a plus l'effet qu'il doit avoir en temps de crise. Il y a des petits effets, il les ressent certainement, de tremblements, par exemple, de palpitations cardiaques, etc. Mais c'est sûrement pas un traitement à prendre depuis son enfance. Je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais il verra bien Serge à son
retour. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Vous avez compris, il faut aller reconsulter. On arrive vraiment à la fin de cette émission. J'aurais juste une dernière question à vous poser, docteur Pigérias. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils sur l'environnement, que ce soit intérieur ou extérieur, pour prévenir ces crises d'asthme?
Je pense que l'environnement intérieur, surtout en Afrique, on l'oublie trop. L'environnement intérieur, c'est peut-être le plus pollué en France aussi pour un individu. Donc, aération. Et en Europe, attention aux VMC, parce que les ventilations mécaniques contrôlées, quelquefois, n'ont pas de filtre changé. Et donc, on se repollue avec sa propre pollution. Deuxième conseil, c'est pour l'extérieur, effectivement, faire attention aux chocs thermohygrométriques. Et les chocs thermohygrométriques, c'est le lit. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour notre sénégalo-brésilien, là, de Brazzaville. C'est le choc extrêmement important qui fait que l'hyperactivité bronchique va être stimulée. Donc, un petit conseil pour l'Afrique. Beaucoup de gens ont des voitures avec un air conditionné dedans. Surtout, traitez bien l'air conditionné. Vous liez des petits trucs. Jamais de ventilation vers le nez.
Et on arrive vraiment à la fin. Je suis obligée de vous couper. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Vraiment, merci à tous les trois. Vous revenez quand vous voulez nous parler de l'asthme. Et surtout, bon congrès.